d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir, Ludo.
Bonsoir.
C'est Gilles au micro, également Claude à la technique, et nous attendons Christophe qui doit être pris dans les embouteillages ou dans le métro, je ne sais pas. Donc ce soir, comme d'habitude, nous parlerons évidemment des choses qui fâchent, c'est-à-dire le chômage et la précarité, bien sûr. Nous parlerons bien sûr de l'OCDE qui découvre que les pauvres nous appauvrissent alors que les riches s'enrichissent pour eux-mêmes. Des crédits publics pour l'entreprise privée et également de la notification de la Convention internationale sur les agences d'emploi privé en procédure accélérée, bien sûr. Mais avant tout, avant de parler de tout ça, nous allons passer des enregistrements que Odile, une camarade de l'AC, a pris dans la semaine qui a précédé la manifestation. Et là, vous allez entendre un certain nombre d'intervenants, des camarades de chez nous, qui réfléchissent sur le problème du chômage et de la précarité.
Faire la une des télés, c'est les nouveaux chiffres du chômage. Donc on parle statistiques, on parle chiffres, etc. Mais il y a un truc qu'on voit pas bien, c'est comment la situation des chômeurs et des chômeuses se dégrade de mois en mois. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir une structure, la société comme ça, comme celle-là, avec par exemple en Île-de-France le taux des loyers, le montant des loyers, et il suffit de regarder un peu, les expulsions locatives sont en augmentation sur tous les départements de la région parisienne. Alors, le nombre d'expulsions, les expulsions réalisées, et à l'autre bout de la chaîne, quand les gens sont à la rue, en panne de logement, on discutait l'autre fois avec des responsables du SAMU social d'Île-de-France, elle expliquait tranquille, la dame traumatisée, mais elle expliquait quand même que quand ils ont hébergé une famille... Hein, parce que vous voyez, là, dernièrement, c'était une famille avec 5 gosses hein, de chômeurs qui étaient dehors. Une semaine, avant de reproposer une mise à l'abri, ils attendent 2 mois. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour le nombre de gens concernés. Et donc, il faut que la misère, elle tourne. On a des problèmes d'alimentation. Il y a des ruptures de soins. Les mutuelles, même s'il y a théoriquement des prises en charge, c'est de plus en plus compliqué. C'est un parcours du combattant administratif. Et avec des lieux d'accueil qui se dégradent régulièrement, plus personne n'accompagne les gens quand ils sont dans les plus grandes difficultés en dehors des associations et de quelques lieux comme ça magiques. Donc il y a un effet entonnoir des difficultés. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. On ne va pas se rappeler des mauvais souvenirs, mais régulièrement, il y a des gens qui menacent ou qui attendent à leur vie dans les pôles emploi, quel que soit, enfin, je veux dire, je parle évidemment pour les chômeurs et les précaires, mais c'est vrai de l'autre côté du guichet. Parce que cette misère, ce désespoir, etc., ça crée du malaise terrible chez les salariés de Pôle emploi. Ces appels au contrôle permanent, sans arrêt, de nos ministres, il faut contrôler les chômeurs, il faut contrôler les chômeurs, ça crée du malaise dans le personnel, ça crée de la peur chez les chômeurs, ça crée du malaise dans les personnels, parce que, d'une part, le travail est difficile à trouver, et d'une manière générale, notre expérience, même si on est au chômage, c'est que, grosso modo, les gens prennent le boulot qu'on leur propose, c'est tellement grave. Quel que soit le salaire, donc se faire taxer sans arrêt de gens qui ne veulent pas aller bosser, notamment chez les femmes. Quand on regarde le montant moyen des salaires chez les femmes, avec l'explosion du travail précaire, c'est une catastrophe. Et ça dure. Et pourtant, les nanas, elles y vont bosser pour quelques centaines d'euros par mois, pour des salaires qui ne suffiront pas pour vivre. Donc, voilà, en même temps, il y a ces urgences-là et on veut les faire partager au reste de la société. Parce que ça fait quand même 30 ans hein, que le chômage structure cette société. C'est pas la première fois qu'on découvre un chômage de longue durée, même s'il est encore plus important. Par contre, les filets de sécurité sociale, dans les 30 dernières années, ils ont sacrément été amenuisés. Il n'y a plus rien qui est en rapport. Donc c'est là-dessus aussi qu'on veut alerter.
Et à un moment donné, il faut que les privés d'emploi, voilà, ils
ils se disent qu'il faut se mettre en mouvement, quoi. On est 5 millions de chômeurs, je disais, entre 8 et 9 millions avec les précaires, et on est une force considérable. Si demain matin on se mettait en mouvement, je crois qu'on arriverait quand même à tirer un certain nombre de choses. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de rogner sur les droits des privés d'emploi. On le voit à chaque nouvelle convention d'assurance chômage, on grignote un peu. Voilà, on parle de la prime de Noël, parce qu'en fin de compte, la première manifestation qui a lieu au mois de décembre, elle était organisée pour, entre autres, demander l'octroi d'une prime de Noël aux privés d'emploi. Donc aujourd'hui, on a une prime de Noël qui est attribuée. Elle a toujours pas été augmentée à ma connaissance depuis. Elle est toujours à 152 euros depuis le départ. Donc, enfin, c'était enfin, mais c'est à peu près 152 euros si je dis pas de bêtises. Elle a toujours pas été révalorisée. Et en plus, elle est même pas attribuée à l'ensemble des privés d'emploi. Donc voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, rien que sur cette question-là, il y a des choses à faire. Et puis après, ce qu'on veut, nous, privés d'emploi, on peut nous traiter d'assister. Les assister aujourd'hui, c'est les patrons, c'est des milliards qu'on leur file pour soi-disant faire tourner leur boîte. Et nous, Malika l'a dit, on est dans la galère avec tous les problèmes. Moi, hier, à mon bureau, il y a une dame qui a appelé. Elle a appelé pendant une demi-heure. On a été obligé de couper, de raccrocher le téléphone. Impossible, on l'a rappelé, hein, mais impossible de placer un mot tellement elle pleurait. Et comme son numéro s'est affiché sur notre truc, on a coupé, on ne pouvait plus. Elle était tellement désespérée, elle était tellement dans son trip qu'elle, c'était impossible de comprendre ce qu'elle voulait. Donc, au bout d'un moment, on lui disait Madame, bon, calmez-vous. Et comme on n'arrivait pas, on a raccroché. Et on a rappelé 5 minutes après, elle s'était un peu calmée en lui disant « Excusez-nous, mais si vous voulez que vous êtes, il faut qu'on sache ce que vous avez. » Ouais, non, mais c'est, voilà, je veux dire. Et ça, quand on parle de gens qui sont au bord du suicide, il faut savoir que c'est ça qu'on a, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les deux jours, on a ce genre de situation qui et ça devient, c'est explosif aujourd'hui la situation. Demain, on va se retrouver avec, si on continue comme ça, on va se retrouver avec des gens qui vont aller casser les pôles d'emploi. Après, les salariés qui sont à l'intérieur, ils font avec les moyens qu'ils ont, et puis voilà. Mais au bout d'un moment, il faut que ce gouvernement il se rende compte qu'il y a quand même une misère sociale qui est très importante dans notre pays, et qu'un jour ça va péter. Ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ça va péter, et qu'il fasse attention, parce que quand ça pète, et après quand ça pète, on ne tient plus rien. Il faut qu'ils en aient conscience. Au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, un jour ça va péter bien. Donc cette manifestation, nous, ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment qu'il y ait des milliers de personnes qui soient présentes. Et aujourd'hui, si on voit des salariés qui commencent à dire ah ben nous on vient, on s'inscrit, on est telle boîte, on est menacé de licenciement, machin, nous on vient à la manif du 6, c'est quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, les salariés comprennent aussi qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ça va être leur tour, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se bougent aussi, et que tout le monde se bouge pour faire changer les choses.
Moi, je voudrais dire aussi que l'une des choses qu'on constate très fort, c'est à quel point le fonctionnement de Pôle emploi aujourd'hui génère beaucoup de souffrance et rabaisse les gens sur leurs difficultés, les culpabilise, etc. On est face à quelque chose aussi, une institution qui est inhumaine, qui génère beaucoup de violence. Nous, on essaye d'accompagner les personnes aussi bien qu'on peut, mais c'est vrai que, alors, sans... Je ne voudrais pas faire de pub, mais il y a un film qui vient de sortir, donc vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Pôle emploi, ne quittez pas, et qui montre bien, j'ai juste vu des extraits, mais qui montre bien, je crois, tout le côté ubuesque et désespérant aujourd'hui du service public de l'emploi. Et effectivement, des deux côtés du guichet, pour le monde de l'emploi, comme pour ceux qui essayent quand même de se défoncer, mais qui sont aussi prisonniers d'un système qui n'est plus humain.
vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo et Christophe au micro. Moi, c'est Gilles et il y a également... Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et il y a également Claude à la technique, toujours présent à nos côtés. Donc, vous venez d'entendre donc les préparations de la manif du 6, donc du samedi dernier, où il y a eu quand même pas mal de monde dans la rue pour défendre les chômeurs contre la précarité et le chômage, bien sûr. Et ça fait quand même plaisir de voir que les gens peuvent se mobiliser quand même un petit peu, même si c'est pas assez, parce qu'on est effectivement plus de 5 millions de chômeurs. Et on est combien? Il y avait peut-être 50 000 personnes ou 60 000 personnes dans la rue. Donc c'est pas assez pour faire bouger les choses. Alors on va reprendre cette émission pour parler un peu de ce qui fâche aussi et de ce que découvrent un petit peu les gens qui sont très riches et qui sont dans des instances de réflexion. L'OCDE apparemment découvre que les pauvres nous appauvrissent alors qu'ils devraient peut-être en premier lieu s'appauvrir eux-mêmes hein, puisqu'ils s'appauvrissent d'abord en premier lieu. Alors moi Ludo, t'as étudié un peu le dossier, qu'en est-il exactement?
Oui, ben écoute, c'est bien, on a l'impression que l'OCDE passe son temps à redécouvrir des choses qui sont vieilles comme la lune, donc tant mieux pour eux. Et puis surtout qu'ils le font un peu sous la pression, on va dire, alors ça, qui vient de toutes parts en fait, hein, qui monte de toutes parts, mais qui est celle de la crise, qui est celle d'économistes un peu plus hétérodoxes que ceux habituellement, hein, donc notamment c'est tous les travaux sur les hauts revenus, et donc récemment ils ont finalement pondu un rapport, hein, je crois que c'est un économiste italien qui était détaché auprès de l'OCDE pour parler des inégalités de revenus, sauf que en fait les publications de l'OCDE sont toujours des publications très libérales. Absolument, c'est celle qui peut-être encore plus libérale que l'OCDE elle-même. C'est celle qui recommande à tour de bras de non seulement de libéraliser, donc de tout privatiser en fait, mais de tailler très franchement dans la masse salariale de l'État, mais les services aussi de l'État. Donc, par exemple, hein, pour mémoire, il y avait un rapport qui préconisait de réduire très sérieusement alors les écoles maternelles, les écoles primaires, et de montrer comment il fallait faire pour que les gens ne manifestent pas. Voilà, donc c'était des trucs d'anthologie. Voilà, mais bon, il se trouve que après 5 ans de crise et une croissance qui est toujours à zéro, peut-être que ces messieurs peuvent enfin essayer de se pencher sur la question du pourquoi. Et du comment finalement la croissance ne redémarre pas. Donc, eh bien voilà, donc tout arrive. Et selon l'OCDE, effectivement, la croissance économique ne repart pas tout simplement parce qu'il y a trop de pauvres. Voilà, donc super. Je crois que un certain John Maynard Keynes l'avait déjà dit avant eux. Ouais. Et donc ils essayent de montrer ça de façon statistiquement. Donc par exemple, alors l'introduction du rapport, par exemple, c'est le creusement des généralisés des inégalités de revenus a conduit à s'inquiéter de leurs conséquences potentielles pour nos sociétés et nos économies. C'est formulé, oui. De récentes recherches de l'OCDE relèvent que toute amplification de ces inégalités fait chuter la croissance économique. L'une des raisons est que les plus défavorisés se trouvent à moins d'investir pour s'instruire. Alors ça, c'est très fort, comme vous allez le voir dans la suite du rapport. En fait, grosso modo, ce que dit le rapport, c'est pas vraiment que c'est que les riches coûtent cher à la société. C'est que les pauvres coûtent cher à la société, bon ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité, comment dire, à s'instruire, une incapacité à être compétitif en fait, hein. Qui est un frein en fait.
Il y a des blocages en fait.
Il y a des blocages qui fait qu'on n'est pas sur l'idée, comment dire, que t'as un gâteau qu'il faut se répartir, pas du tout. On est sur l'idée que quand les gens sont dans des trappes à pauvreté, ils peuvent plus s'en sortir, et surtout leurs enfants ne peuvent plus s'instruire, et ne pouvant plus s'instruire, ils ne peuvent plus accéder à un monde où ils pourraient s'adapter dans l'économie moderne, et notamment dans l'économie de la connaissance. Mmh. Voilà. Alors ça peut être dit de façon différente, mais par exemple récemment, toujours à l'OCDE, il y a une économiste qui a dit bon ben finalement la croissance, le développement des nouvelles technologies en réalité a été largement financé par les contribuables, sauf qu'il n'y a pas eu de retour sur investissement, c'est-à-dire que ça a profité
à quelques-uns,
voilà. Donc par exemple, hein, c'est ce type de raisonnement. Donc bon, la seule bonne nouvelle de ce truc, c'est que finalement, on s'éloigne en fait de la théorie qui voudrait que plus les riches s'enrichissent et plus finalement leur consommation tire la croissance et que par ruissellement, on va dire, les pauvres en bénéficient.
D'accord.
Hein, grosso modo, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vieux comme le monde. Hein, plus vous êtes riche, plus vous êtes capable d'entreprendre, et plus vous êtes créateur d'emplois, et donc forcément les pauvres en bénéficient. Il y a juste un problème, c'est qu'en fait, depuis l'investissement, en fait, est à son plus bas niveau historique. Et en fait, on s'aperçoit que passer un certain niveau de richesse, mais même pas seulement passer un certain niveau de richesse, mais disons un certain niveau de richesse, finalement, on épargne beaucoup plus qu'on consomme même, on est en plein dedans, hein, on peut le dire.
J'ai une question liée à cet article. Est-ce que tu as le chiffre où on commence à épargner? La moyenne, c'est 2 millions, 3 millions de dollars
Écoute, il y a des gens qui épargnent. Évidemment que l'épargne, des bas revenus est toujours un problème. Mais enfin, il y a des gens qui sont quand même capables d'épargner. Modestement, proportionnellement à leurs revenus. Donc voilà. Et ensuite, ça dépend quand même beaucoup de ces choix d'épargne. Hein. Donc voilà. Donc l'épargne en principe est possible. Mais effectivement, le rapport dit qu'effectivement, non seulement les pauvres sont bien sûr pénalisés par ce type d'économie, mais y compris en fait les classes moyennes inférieures qui eux aussi commencent à subir les contre-coups d'une crise durable. Voilà, donc ils tentent de les laisser. Alors voilà, si c'est bon, 2-3 choses, hein. Mais ça en fait on le sait depuis longtemps, hein. Par exemple, au moment de la crise de 29, vous savez, c'est les années folles, les années 20. Donc les années 20, il y a eu une consommation des riches importante, un accroissement des inégalités aussi, c'est-à-dire une mauvaise répartition des richesses, et une consommation qui tournait vers le haut. La crise, en fait, a cassé le moteur de la croissance qui tournait sur la consommation des riches. Mmh. Or, évidemment, les revenus n'ayant pas été distribués auparavant, il n'y avait pas de relais possible à l'époque.
Ben, en fait, ça s'explique aussi qu'on sortait d'une guerre, il y avait des routes, des infrastructures à reconstruire, etc.
Pas aux États-Unis, c'est ça. Moi, je parle des années folles aux États-Unis. Voilà. Ouais. Aux États-Unis, voilà, visiblement, hein, on s'aperçoit que parfois, les années d'après-guerre, finalement, sont profitables. C'est pas arrivé. Donc, en l'occurrence, elles étaient encore plus profitables aux États-Unis qu'en Europe.
C'était le développement en fait de la deuxième phase du capitalisme après la phase industrielle qui est effectivement les premières économies de rente et puis une classe ce qu'on appelle les professions socioculturelles élevées quoi professions intellectuelles et supérieures qui effectivement pouvaient amasser
pas mal d'argent
parce que il faut savoir quand même ça on l'oublie que travailler dans la fonction publique, il y a un fait dans les sociétés modernes historiques qui est que, on va dire que de 1880 à 1930, travailler dans la fonction publique était synonyme d'élitisme. Parce que le niveau pour y rentrer était assez élevé.
Mmh. Hein, mais l'État était beaucoup plus réduit à l'époque, hein, tout de même.
L'État
en termes de pension, oui. Ouais, donc la sélection était plus élevée. Mais bien sûr, mais dans les années 20, effectivement, ce qui est quand même différent, c'est qu'il y a quand même eu une croissance qui était liée à l'industrie. Ça, on peut pas le nier. Alors que dans les 20 dernières années, la croissance est tirée, la boom depuis 2000, par exemple, via l'immobilier, par exemple, c'est pas de la croissance industrielle, qui des nouvelles technologies, mais qui parfois dont les marges sont quand même assez réduites. Et rapporte moins que l'industrie, mais on est quand même resté sur ce modèle de baisse d'impôts massive sur les hauts revenus et donc de reconstitution de capital qui permettrait en théorie d'investir et de consommer pour les plus riches, hein, et donc de tirer tout le monde par le haut. Or, effectivement, là, l'OCDE dit, bon, par exemple, la perte de croissance vient en partie de la faible progression à consommer, donc les classes fortunées ayant tendance à épargner et à placer leur argent en capital ou dans la pierre, bon, ce qu'on a largement constaté, bref, à stocker une partie de leurs revenus. En ce qui concerne les 40% les plus pauvres, c'est aussi la perte de pouvoir d'achat et donc la capacité à consommer qui muselle la croissance. C'est-à-dire qu'à voilà, donc la mauvaise répartition de revenus sur les 15 ou 20 dernières années conduit la crise aujourd'hui à être durable, en quelque sorte. Faute de relais,
faute de croissance.
Et de politique publique, hein, de choix de politique publique, puisque l'austérité bien sûr, ne va pas dans le sens d'une consommation des ménages. Voilà, donc, mais ce qui est le plus grave et qui met en avant ce rapport est la dégradation au fil des générations du capital humain. Donc ça, c'est l'aspect dont je vous parlais tout à l'heure, en matière d'éducation et de compétences qu'induit l'accroissement des inégalités, limitant ainsi la mobilité sociale et professionnelle et privant le pays de nombreux talents qui ne peuvent se révéler. Dans les pays les plus inégalitaires, les ménages les plus démunis sous-investissent dans le capital humain de leurs enfants. Voilà, donc effectivement, alors ce qui signifie en fait qu'il y a une, il y a un effet sur les plus pauvres, c'est-à-dire qu'il, mais sur plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur les plus pauvres sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'une trappe à pauvreté conduit en fait à sous-investir dans le capital humain qui lui-même sera incapable plus tard de prendre sa place dans la société. C'est ça que ça veut dire.
Ça explique pourquoi, notamment dans les pays riches, il y a toutes ces écoles privées qui sont subventionnées par l'État, où même si le niveau scolaire proprement dit des élèves sera équivalent à certains grands lycées publics, c'est pas ça. C'est que les gens, même le plus feignant fils d'eux, va bénéficier des réseaux sociaux et des portes d'entrée qui lui sont dues liées à son statut social.
Oui, alors c'est ça qui est drôle, c'est que finalement le rapport n'aborde bien entendu pas ce type de problème. C'est qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, les classes aisées ou supérieures ont quand même bien compris que pour que leurs enfants accèdent, il fallait leur payer des écoles privées. Et je parle même pas du cas par exemple en Angleterre ou aux États-Unis où finalement les frais de scolarité ont augmenté. Et donc là, dans le système éducatif lui-même est générateur d'inégalités parce que lui-même il est pris en compte cette différence de cet élitisme par l'argent. Évidemment, ça, le rapport, il en parle pas. Hein. Il parle pas de politique publique d'éducation qui serait à même de c'est pas son problème quoi. Voilà. Est-ce que
d'ailleurs le système public, il est au niveau de l'enseignement, il est pas pire que le privé. Le privé, tu parlais tout à l'heure effectivement du public qui était lié. Les grandes écoles publiques sont correspondent en fait aux écoles privées en termes d'enseignement. Moi, j'ai vu pas mal. Maintenant que j'ai deux enfants qui sont à l'école, j'ai pu vérifier qu'effectivement dans les écoles publiques, l'enseignement est assez bon de façon générale et que l'enseignement privé, il peut être bon, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, pour le coup,
oui, mais au niveau supérieur,
on parle de ça. Hein, oui, on parle des grandes écoles.
Alors, voilà, exactement. D'accord. Okay. Ah ben bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Je veux dire pour accéder à l'emploi, hein,
oui,
bien sûr. Cela étant dit, pour aller dans ton sens, c'est vrai que le système public français, en fait, a très bonne réputation, parce qu'il permet de former beaucoup plus de jeunes qui évidemment ont beaucoup de problèmes quand ils seront sur le marché de l'emploi, mais qui pourront s'exporter à ce moment-là.
Oui, oui, voilà. C'est vrai. Oui, raison.
Mais par rapport à cette notion de capital éducatif, je te rappelle que les frais de scolarité ce qu'on appelle un Master Business Administration, un MBA, qui est un diplôme de grande école, c'est 15-20 000 euros. Un enfant de smicard, voire même de classe moyenne qui gagne 1500 euros par mois, ne peut pas se payer.
Non.
C'est impossible.
Non, bien sûr.
Ouais. C'est le cursus, sans démériter sur le diplôme, c'est le cursus des bien portants qu'on raté Sciences Po, Polytechnique.
Qu'on rentabilise, en fait.
Voilà, qu'on rentabilise en faisant ça.
Bien sûr.
Je te précise. Donc, et où certaines grandes écoles de commerce qui sont extrêmement chères. Mais, oui, c'est, tu parlais du système éducatif, mais à la base, c'était l'idée même de l'ascenseur social par rapport à ça. Or, et ça, c'est un phénomène très extrêmement français. Je vais te donner une chose que tu sais peut-être pas, ça va peut-être intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu sais comment le lycée Louis-le-Grand, qui est un lycée extrêmement prestigieux, même le plus prestigieux de France, recrute ses élèves?
Bah, c'est par rapport à leur dossier. J'imagine que les meilleurs élèves des autres écoles sont sélectionnés.
Absolument. C'est-à-dire qu'ils regardent tous les fichiers de notes et de bulletins trimestriels des élèves, meilleurs élèves.
Donc leur résultat est faussé, puisqu'ils prennent que les meilleurs au départ, donc automatiquement ils seront que les meilleurs à la fin.
Ouais, absolument. Absolument. Et ça pose un problème, parce que si à partir du moment où tu as des personnes, même si elles sont brillantes, qui sont les meilleurs élèves, évidemment, du fait des inégalités sociales et des conditions de vie, c'est pas dans les ZEP que tu vas trouver ça.
Non, bien sûr.
Donc, ou même dans des lycées de banlieue moyenne, hein, où il n'y a pas forcément de problème de délinquance, violence, machin, les topos qu'il y a. Et ça pose un problème, parce que c'est ça qui aujourd'hui grève l'innovation, la créativité, mais aussi la capacité de se rénover. J'emploie bien le mot rénover, pas réformer, parce que réformer, c'est un mot qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, dans la nouvelle langue, réformer, c'est-à-dire maintenir le système qui l'empêche de se réformer. Et c'est comme ça qu'on est passé de la 4e puissance économique mondiale à aujourd'hui la 9e au niveau économique et la 33e au niveau finance.
Voilà, donc je voulais juste finir hein, sur cette histoire d'éducation. Au contraire, le libéralisme, avec son insuffisance notoire dans la redistribution des richesses, accroît les inégalités et éloigne de la réussite scolaire ceux qui en auraient le plus besoin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, pour sortir de l'ornière dans laquelle on les a jetés. Le système, au lieu de converger vers plus de réussite pour tous, diverge vers de plus en plus d'exclusion, ce qui à terme conduira à un appauvrissement généralisé. Donc voilà, il y a deux trois autres choses hein, sur le rapport. Donc on l'avait déjà commenté, en 2013, 85 personnes détenaient autant que ce que détient la moitié la plus pauvre de la planète. Et en 2014, c'est seulement 67 personnes qui concentraient autant de richesses que cette même moitié de la population. Donc on voit que les inégalités, les très hautes richesses s'accroissent. C'est-à-dire que moins de 1% de la population possède la moitié de la richesse mondiale. Ces inégalités extrêmes, en excluant les plus démunis et en autorisant les nantis à se dispenser de leurs nécessaires contributions, dégrade les gouvernances démocratiques, blabla, renforce le pouvoir des oligarchies. Donc grosso modo, l'idée, c'est qu'en fait, on va vers une oligarchie financière qui se reproduit, puisqu'elle a la capacité de se reproduire, et une masse de pauvres de plus en plus importante qui, elle, sombrant dans la pauvreté, entraîne aussi ses enfants, et elle est sombre pour plusieurs générations. Le rapport se conclut que lutter contre les inégalités par l'impôt et les transferts ne nuit pas à la croissance, pour autant que les mesures soient bien pensées et correctement mises en œuvre. Voilà. À cet égard, les efforts de redistribution devraient privilégier les familles avec des enfants et des jeunes. Voilà. Bon, donc grosso modo, hein, le rapport met l'accent sur l'éducation. On l'aura compris. Voilà, la répartition des richesses pour permettre aux pauvres de s'en sortir. Bon, c'est déjà
donc vive l'éducation laïque, quoi. Hein, on est d'accord. Ouais. On propose de vous écouter. On va mettre une petite chanson ensuite on reprend la parole. Merci.
Dans un café des boulevards, une famille arrive à tard, voulant dîner frugalement de sa ville. Vous avez les dents sourdues
et le fromage est mou, je ne vous le fais pas dire.
22, la roca salade.
Eh oui, c'était le grand, grand, grand Boris Vian, le dadaïste Boris Vian. C'était cadeau, c'est pour Noël. J'espère que vous avez bien apprécié cette chanson qui est formidable. Voilà, on reprend cette émission.
Rock monsieur.
Rock monsieur, c'est ça, voilà. Rock madame aussi. Donc on reprend cette émission. Donc c'est mode d'emploi sur fréquence par Pluriel 106.3 FM avec Ludo, Christophe au micro et Gilles. Et Claude à la technique. On reprend cette émission pour vous faire entendre en fait la deuxième partie des enregistrements qu'a fait Odile, notre camarade d'Assé. Dans le cadre de la préparation de la manif du 6 décembre dernier, où on s'était retrouvé quand même à une quarantaine de 9000, 50 000 peut-être personnes dans la rue. Donc il faut quand même encore se mobiliser pas mal. Et puis ceux qui ne sont pas encore descendus le 6, descendez la prochaine fois, parce que là, plus on est nombreux, plus on changera les choses. Écoutez donc cet extrait, merci.
En préalable, bon, je voudrais déjà annoncer quelque chose finalement de l'ordre de la méthodologie, de la précision méthodologique, disons. En construisant ce livre, je suis parti au fond d'un enjeu méthodologique, au sens où il ne s'agissait pas de parler de la précarité, de la précarité en général, mais de m'appuyer au fond sur une zone de réflexion spécifique, au sens où on peut dire que il y a des tas de dimensions de la précarité, il y a une plurivocité de la précarité, et justement Christian Laval y faisait un petit peu allusion, toutes les formes finalement de conditions très proches de l'expérience de la pauvreté ou d'un écrasement sous des formes de violence sociale. Et il ne s'agissait pas pour moi de partir de là. Dans une certaine mesure, cette question-là, elle est tout à fait fondamentale, elle est tout à fait présente, mais il s'agissait pour moi, et en écho à ce qui a été dit, il s'agissait pour moi essayer d'essayer de réfléchir sur la question d'une alternative, d'essayer de réfléchir sur des possibilités et des possibles. Et de cela, donc, je ne pouvais pas directement m'appuyer sur les formes de précarité extrême. Il ne s'agissait pas donc pour moi de partir des extrêmes, mais plutôt de partir d'un milieu, de partir d'une zone d'expérience où il était possible de réfléchir sur des alternatives, de réfléchir sur des possibilités d'autres vies, des possibilités de construction et des expériences où on pouvait construire d'autres des pistes et d'autres modes de vie. Et donc c'est la recherche qui a porté sur ces travailleurs des industries culturelles et sur laquelle je me suis appuyé, qui est une recherche qui avait été qui a été menée il y a un ou deux ans et à laquelle j'avais participé. Cette recherche m'a permis justement de travailler cette question des alternatives. Elle portait donc encore une fois sur ces travailleurs des industries culturelles, à la fois dans une dimension d'indépendance, mais aussi dans une dimension de précarité. Il y avait tout un ensemble d'expériences, tout un ensemble de relations au travail qui allaient de l'indépendance, du salariat à la précarité, au travail précaire, j'y reviendrai. Et autour de cela, il y avait aussi, pour moi, la possibilité de renouer avec un ensemble d'enjeux qui avaient... sur lequel j'avais travaillé, notamment autour de jeunes gens de milieux populaires dans les années 80, de jeunes gens qui essayaient d'échapper à la condition populaire et qui précisément, pour échapper à cette condition, avaient paradoxalement faisaient paradoxalement ce parcours autour de petits boulots, autour d'activités, etc., comme condition finalement de gagner du temps, d'arracher du temps pour faire autre chose. En l'occurrence, ça pouvait être de la danse, ça pouvait être des formes d'activités artistiques, etc. Et en tout cas, donc il y avait cette idée, en tout cas déjà dans cette expérience, d'une sorte de desserrement de la contrainte salariale par de la contrainte, disons, et de la, on pourrait dire aussi de la violence, disons, d'une certaine condition salariée, d'une certaine condition populaire souvent, et de salariat déqualifié, à partir de ces formes, de ces négociations avec le travail précaire et à travers, souvent des formes de réduction de la consommation pour pouvoir gagner du temps autour de ces activités créatives. Alors évidemment, là, dans cette enquête sur les travailleurs des industries culturelles, on changeait d'univers, on changeait de dimension, mais on retrouvait au fond un certain nombre de thèmes, un certain nombre d'enjeux en écho à ces expériences, et on le retrouvait, je vais revenir dans quelques instants, dans un univers professionnel plus spécifique, plus construit évidemment, et avec des expériences plus resserrées que celles que j'avais rencontrées donc dans les années 80 autour de ces jeunes qu'on pouvait désigner à l'époque comme des précaires. Et ce qui était important pour moi aussi dans cet enjeu, c'était de retrouver une thématique gorsienne, notamment tout ce qui relevait de la tension chez Gorce entre travail et multi-activité, entre le fait que, au fond, la distance au travail renvoyait aussi à un enjeu d'activité, de multi-activité, de parcours plus ou moins multi-actif, et au fond l'idée que à côté du travail il y avait tout un enjeu d'activité, encore une fois diverse, ou en tout cas quelque chose de l'autonomie, quelque chose de l'indépendance, quelque chose également d'un refus de la spécialisation, de la division, du rapport de subordination comme rapport justement de division et de commandement était cherché. Et donc on le trouvait là, cette fois-ci, dans le cadre de ces jeunes gens des industries culturelles, finalement dans un univers beaucoup plus délimité, circonscrit, à travers des pigistes, à travers des formes de pige et de journalisme, à travers de toutes ces nouvelles professions des arts qui notamment aussi sont nourries par finalement un certain nombre de nos formations, y compris à l'université. Et puis, dans un milieu qui était au fond... qu'on pourrait dire un milieu plutôt des classes moyennes, même si évidemment il y avait à l'intérieur de ces parcours des tas de gens qui étaient issus de milieux populaires et qui avaient finalement construit un itinéraire professionnel. Donc au fond, ce que je trouvais dans cet espace, c'était à la fois du travail indépendant, du travail précaire, du salariat, au fond toute une zone grise de parcours biographiques dans lesquels l'enjeu de réalisation, l'enjeu de faire quelque chose qui permettait de s'accomplir, l'enjeu de faire quelque chose qui valait, devenait important, apparaissait comme fondamental et en même temps en tension avec justement des conditions plus ou moins précaires, des conditions professionnelles incertaines et également avec des enjeux de frontières entre travail et activité, entre travail et intimité, qui m'apparaissait tout à fait important. Je vais donner quelques exemples. Donc, par exemple, une pigiste qui est à la fois standardiste, une artiste plasticienne qui avait été très longtemps vendeuse en magasin. Tout un ensemble donc de styles de vie, de modes de vie, qui articulaient à la fois un enjeu de réalisation. Évidemment, il n'y avait pas que ce type de configuration. Il y avait des formes de pige traditionnelles avec des gens souvent néanmoins confrontés à une incertitude de l'emploi, une incertitude de la rémunération. Donc, à la fois dans cet univers, de la pige, ou dans cet univers également des arts ou des activités comme notamment tout ce qui peut être du côté de la vidéo, ou par exemple notamment une comédienne également pigiste. Donc tout un ensemble de parcours où se mélangeait finalement travail et activité, et où se revendiquait quelque chose d'une autonomie et d'une résistance au fond à la subordination. Alors en même temps, justement autour de l'ensemble de ces situations, l'ensemble de ces expériences, il s'agissait pour moi dans une sorte de regard aussi avec la sociologie, une certaine tendance du discours de la sociologie qui dénonce ou qui se situe en posture analytique du côté de l'aliénation, du côté d'une dénonciation, d'un asservissement, voire d'une servitude volontaire d'un certain nombre de ces pratiques et de ces modes de vie liés à l'autonomie. Il s'agissait à la fois de prendre en considération la dimension affirmative de ces expériences, l'enjeu de réalisation, le désir de réalisation dans une activité justement qui permet de s'épanouir, de se réaliser, et en même temps aussi de chercher à tracer un certain nombre d'ambiguïtés, d'ambivalences. Et c'est autour de l'ambivalence, au fond, que s'est constitué mon propos, au sens où cette aspiration à l'autonomie, cette aspiration à l'indépendance, eh bien, elle était aussi confrontée à des nouvelles formes d'exploitation, à des ambiguïtés entre la temporalité du travail et la temporalité de l'intimité, à une exigence de se manifester dans une disponibilité par rapport à des exigences par exemple d'entreprises, de chaînes ou de journaux, etc. Donc au fond, l'idée que à travers ce discours de l'indépendance, de l'autonomie, il y avait aussi de nouvelles formes de domination, des nouvelles formes d'exploitation qui apparaissaient concernant la condition de ces individus et de ces groupes.
Je ne suis pas littérature de la pluie, moi je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie.
Et oui, nous reprenons cette émission, c'est Mode d'emploi sur fréquence par Pluriel 106.3 FM. Mode d'emploi, c'est émission des chômeurs à précaire. Alors, dans la première interview, vous avez entendu Madame Zediri, qui est donc une proche de nos mouvements, Et en seconde interview, c'était Monsieur Singolani, qui est chercheur également proche de AC et des mouvements en lutte. Voilà. Alors évidemment, si se révolter est un droit, c'est aussi une obligation. Dans l'époque où nous vivons, c'est une époque formidable, comme diraient certains penseurs de notre temps. Alors on prend cette émission pour parler maintenant, effectivement, des crédits publics pour les entreprises privées, puisqu'on dit que le socialisme est fait surtout pour les riches, Christophe.
Alors, il y a ce mois-ci un excellent article dans Le Monde diplomatique sous le titre « Le socialisme existe, eh oui, mesdames et messieurs, mais pour les riches ». Alors, c'est un article assez intéressant, on pourrait le taxer de démagogie, mais en fait, il analyse, selon la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un EHPA peut restreindre les prestations sociales des migrants intracommunautaires inactifs. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de ressort de l'Union européenne ben, peuvent tout simplement être disqualifiés de toutes les prestations sociales qui sont liées à un pays sous prétexte que ces gens-là courent en tant que touristes sociaux en différentes prestations que peut offrir tel ou tel territoire. Donc on est, une fois de plus, dans l'image du pauvre qui est associée à celle du profiteur. Sauf que ce qu'on ignore, et ça c'est, bon, nous on le savait déjà, mais là il y a un article qui est quand même fait dans une revue qui a pignon sur rue, donc Le Monde diplomatique. Il faut savoir qu'il y a une autre catégorie de la population qui bénéficie pourtant davantage des largesses publiques, comme le montre l'exemple britannique, terre du libéralisme. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, le contexte est le suivant. C'est un article de Monsieur Owen Jones et je vous en recommande la lecture.
Le Monde diplomatique, c'est ça?
Oui, Le Monde diplomatique. Alors, en fait, quel est le contexte? Ben, sur les plateaux de télévision, les tribunes, que leur offre la presse, les porte-voix de la classe dominante rabâchent que l'État fait quoi? Il leur bride, il leur met une laisse autour du cou parce que le marché n'est pas libre, il y a toutes les contraintes réglementaires, institutionnelles, de moyens de contrôle de l'État. Bref, c'est le drame. Seulement, sauf que seul vecteur, selon ces classes riches et dominantes, vecteur de la croissance et donc de l'innovation et du progrès, il faut que on libéralise et que l'État garantisse cette liberté d'entreprendre. Sauf que l'État, ben, fait un certain nombre de garanties, notamment, quelles que soient. C'est d'abord les garanties de la propriété privée, hein, qui repose sur un onéreux système judiciaire et policier, hein, mais ça, tout le monde en bénéficie. L'État ne se contente pas de protéger les entreprises contre les atteintes à leurs biens ou le vol de leurs produits. Par exemple, la loi britannique relative aux brevets, donc à tout ce qui est du domaine de la propriété intellectuelle, est lourdement taxée. Il en coûte près de 600 livres sterling, c'est-à-dire à peu près 850 euros, pour faire breveter une innovation pour toute l'Union européenne. Donc si tu veux, t'es un petit gars sans fou, mais t'as une idée géniale, bah t'es sans fou, déjà ça va te coûter bonbon pour faire ne serait-ce que déposer un brevet. Sauf que ça, je pense que c'est pareil en France, le secteur privé sollicite par ailleurs régulièrement l'État qui l'accuse d'obésité massive lorsqu'il s'agit de prestations sociales ou de revalorisation salariale réglementaire, comme l'équivalent du salaire minimum, hein, puisque alors là, on n'entend pas le « mouvons nos profits que nous avons dans nos poches ». Hein, nous entendons régulièrement ce discours. Seulement, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération en ce qui concerne l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat au niveau des marchés de boîtes importantes. D'abord, qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne, à ton avis?
Ah ben, je suis là pour apprendre aussi.
Ben d'abord, le secteur privé, comme en France, sollicite régulièrement l'État pour qu'il finance quoi? Ben, la recherche et le développement dont dépend son activité. Ainsi, le Royaume-Uni, cette forme d'assistanat, rarement dénoncée dans la presse, s'élève à près de 10 milliards de livres sterling par an, c'est-à-dire à peu près 13 milliards d'euros. En 2012, tu vois, par exemple, la principale organisation patronale, ce qu'on appelle la Confédération de l'industrie britannique, CBI, se félicitait d'avoir obtenu une augmentation de l'investissement dans les infrastructures scientifiques et de recherche, arguant et donc argumentant que ça permettait au Royaume-Uni de continuer d'attirer les entreprises qui investissent dans la recherche. Bref, grâce à l'innovation, donc la recherche qui est subventionnée par l'État, la marée de l'abondance soulèverait à la fois le salariat, mais aussi, je reprends les mots de l'auteur, le yak patronal. Formidable. C'est socialisme à la lettre. Ouais. Sauf que voilà, un économiste, et pas n'importe quel, l'économiste Mariana Mazzucato, a mis au jour que certains mécanismes permettent au secteur privé de bénéficier directement de la générosité publique. Et là, il y a des exemples historiques dans ce fait, cette fameuse terre du libéralisme britannique. Hein. Est-ce que tu veux que je t'en donne quelques-uns?
Ah bah oui, donne-moi quelques-uns. Oui.
Tu en connais évidemment, mais donc par exemple, depuis les années 70, le Conseil de la recherche médicale met au point des anticorps ou des traitements d'immunité qui peuvent aider certains cancers. Alors, l'organisme public, évidemment, se félicite d'avoir révolutionné la recherche biomédicale, favorisé l'essor d'une industrie internationale, dégageant des milliards. Sauf que ces brevets qui sont du domaine public sont ensuite repris par des industries privées et elle a engendré, évidemment, d'immenses fortunes privées. C'est comme ça que, par exemple, que l'idée et l'algorithme qui a créé le www, donc le web, a été mis à bénéficier... est au départ une idée d'un ingénieur britannique, Tim Berners-Lee, au sein d'une institution publique. Sauf que le moteur de la recherche, et en fait, cet algorithme-là, cette idée-là, elle a été mise en place sur le marché et a développé toute une économie. On pense par exemple à Google, à Yahoo, des moteurs de recherche, des choses comme ça, etc. Alors, on va dire, mais il est normal que les créateurs de richesses, de salariats et d'entreprises bénéficient de l'aide de l'État. Sauf que derrière, il y a aussi mille et une douceurs, comme le dit l'auteur de l'article. C'est-à-dire que les créateurs de richesses ne se lassent pas de demander à ce que l'État investisse dans les infrastructures publiques. C'est-à-dire que, là encore, le mécanisme de l'État, on doit réduire ses déficits et l'assistanat, mais lorsqu'il s'agit d'aller construire des routes ou de pour maintenir la confiance des marchés, l'État britannique libéral n'hésite pas de mettre la main à la poche, puisque le patron des patrons anglais reconnaît volontiers que l'amélioration du réseau routier stratégique et la réduction de l'encombrement de la circulation sur les petites routes, les infrastructures sont très importantes pour les entreprises. Bah oui, c'est ça qui permet de faire circuler les biens marchands et les personnes. Donc tout ceci explique évidemment comment l'État dorlote les lignes de mine d'une autre façon. On en a parlé, on le rappelle, l'enseignement public, mais il faut savoir que dans le cadre des réductions d'impôts annuels, les plus aisés bénéficient de dizaines de millions de livres de sterling de réduction dans les organismes privés, les écoles privées, ce qui permet notamment aux enfants de bonne famille, peu brillants ou carrément feignants, bah, de ne pas sombrer, puisqu'ils bénéficient des réseaux sociaux dont on parlait. Bref. En tout cas, la conclusion de cet article, c'est que le socialisme pour la riche, capitalisme pour la zone, n'est-on pas en droit de résumer ainsi l'idéologie de la classe dominante? Quelle excellente question.
Merci Christophe, merci Ludo, merci Claude pour cette excellente émission. J'espère pour vous, en tout cas, qu'elle est excellente. Cette émission, en tout cas, se termine. Je vous dis, bien sûr, dans 15 jours pour nous, pour AC. Restez avec, écoutez encore cette antenne, puisque la semaine prochaine, je crois que c'est Copernic, voilà. Donc, je vous souhaite à tous un excellent Noël, évidemment, surtout aux plus jeunes d'entre vous. Et je vous dis à dans 15 jours. Bisous aux filles et poignées aux garçons. Ciao.
Au revoir. Et bon Noël.